Nous avons vu la dernière fois cette sorte de naissance de la science moderne et même de la technoscience dans la chrétienté, conditionnée par le christianisme, rompant, au moins en partie, avec un rapport au cosmos comme étant le référent premier. Il ne s'agit plus d'imiter le cosmos, comme disaient les stoïciens. Il ne s'agit plus d'avoir une technique qui simplement imite la nature, mais une technique qui, sachant analyser la nature sur le mode physico-mathématique, va en ressaisir les énergies, les puissances, pour faire des choses utiles à l'homme. Et vous vous souvenez cette phrase de Descartes, hein, il s'agit pour, au final de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors, il ne s'agit pas de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Voilà la grande différence avec des développements plus contemporains. Chez Descartes, il y a ce « comme ». Et vous comprenez d'où ça vient. Dieu est maître et possesseur de la nature. Mais étant à l'image de Dieu, nous pouvons nous rendre non pas maître et possesseur de la nature, mais comme maître et possesseur de la nature. Vous allez me dire, tiens, c'est curieux, ça ressemble à la parole plutôt du serpent. Vous serez comme Elohim. Vous serez comme Elohim, donc nous serons comme maître et possesseur de la nature. Est-ce qu'il y va là d'une sorte de nouveau péché originel? Vous voyez, c'est ça la question. Et certains ont voulu lire le texte de Descartes comme cela. Naissance de la technoscience, naissance d'un rapport au cosmos qui est un rapport désormais non plus de contemplation, mais d'opération, d'emprise, et dès lors un nouveau péché originel. Vous voyez, on se rend comme des dieux. On devient comme des dieux. Mais ce serait ignorer d'abord le fait que tout ça est ordonné vraiment. Alors vous allez me dire, ce n'est pas avec des bons sentiments qu'on se rachète nécessairement. Mais enfin, l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, peut-être. Mais malgré tout, il y a ce désir d'être utile à son prochain. Vous vous souvenez, hein, ces sciences utiles à la vie, où il s'agit vraiment de secourir les hommes. Ça, c'est un point fondamental. Deuxième chose, c'est aussi manifester ce devoir de seigneurie qu'a l'homme par rapport à la nature, où il n'est pas simplement que son imitateur, il est responsable pour la création. Vous vous souvenez, hein, c'est ça la grande différence. Je vous l'avais dit, il ne s'agit pas d'une seigneurie despotique, écrasante d'abord, hein, qui est affirmée dans la Bible, c'est vraiment plutôt l'idée d'être responsable pour la nature. Et chez Descartes, si vous prenez la théorie des animaux-machines, par exemple, chez Descartes, parce qu'on a ramené à cette expression-là, vous voyez que pour Descartes, les animaux sont des machines, mais sont des machines faites par Dieu. Et on y reviendra après, parce qu'on va parler des machines tout à l'heure. Enfin, après, on va juste finir cette leçon-là, puis aborder la leçon suivante sur la question des machines, justement. Mais, vous voyez, pour Descartes, une machine divine, c'est une machine devant laquelle on s'étonne, on est émerveillé. Vous comprenez? Et il n'a jamais eu l'idée, Descartes, qu'un ingénieur pouvait égaler Dieu. Donc, l'animal, même en tant que machine, étant une machine divine, est supérieur à toutes les machines que l'homme pourrait produire. Et il ne faut pas croire que la théorie des animaux-machines impliquait nécessairement chez Descartes une sorte de mépris hautain devant l'animal. C'est pas vrai. Ça, c'est une interprétation, je dirais, postérieure. Il y a vraiment, à cette époque-là, un émerveillement devant le mécanisme. C'est pour ça d'ailleurs que ça va devenir un concept opératoire pour décrire les choses. Parce que quand, à l'époque de Descartes, on fait des automates, On voit des choses, on voit avec des rouages, quand on voit le développement de l'horlogerie, quand on voit... On est admiratif, c'est beau à voir. Il ne faut jamais oublier que la machine, au sens du mécanisme, le mécanisme existe déjà sans moteur, hein, par exemple dans une serrure. Hein, et vous savez très bien que c'est très beau, le mécanisme d'une serrure, à tel point qu'un roi de France qui se fera couper la tête était fasciné par le mécanisme des serrures, peut-être plus que par le bien commun de son peuple. Il était un petit peu gentil aussi. Donc, vous voyez, c'est déjà merveilleux pour qu'un roi de France, vous voyez, soit émerveillé par ça. Bon. Et puis, de l'autre côté, il y avait tous les automates, alors de Vaucanson, etc. Et il y avait quand même une fascination. Vous êtes ici dans le pays... Et j'y reviendrai après quand même, de l'homme qui a manifesté la beauté et même l'humour et même la liberté de la machine. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Ah voilà, merci. Vous n'êtes pas complètement ignare. Il y a Julien pour vous sauver, qui lui n'est pas ignare. Voilà. Qui est cultivé, qui l'étale un petit peu. Alors, non, c'est bien, merci. Donc, vous pouvez aller au musée Tinguely et Niki de Saint-Phalle, qui est juste à côté de la basilique Notre-Dame, vous voyez. Alors, vous ne vous trompez pas, il ne s'agit pas d'adorer les machines, l'adoration est à côté, mais quand même, il ne faudrait pas que l'adoration vous fasse ignorer que vous avez ce lieu-là, qui est un lieu très intéressant, parce que vous allez pouvoir voir des machines de Tinguely, et vous allez voir ce que c'est qu'une machine, en fait. C'est très intéressant. Hein, et vous pouvez comprendre, à partir de cela, merci Olga, à partir de cela, vous allez pouvoir comprendre qu'il y a aussi un émerveillement devant la machine. Il y a une fantaisie de la machine, il y a un humour de la machine. Vous savez, par exemple, certaines machines, un des principes de la drôlerie, c'est de faire des mouvements qui sont solidaires l'un avec l'autre, mais un qui est très lent et l'autre qui est très très rapide. Vous voyez, donc ce décalage fait une sorte de contraste, ou alors un qui est circulaire et l'autre qui est linéaire, par exemple. Vous voyez, et donc on joue sur ces effets-là et il y a une sorte d'émerveillement devant la machine. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que, et j'y reviendrai, ça sera un des points fondamentaux à comprendre, parce qu'on a souvent un vocabulaire un peu monolithique sur la machine. Comprendre que, voilà, il y a aussi cet émerveillement. Alors, c'est peut-être moins Descartes, même si Descartes va poser un jalon essentiel, Descartes et Galilée vont poser un jalon essentiel, c'est peut-être moins lui que certains de ses contemporains ou de ses successeurs, qui vont faire bifurquer la chose, disons, vers une emprise totale sur la nature. Et l'un des auteurs les plus importants, bien sûr, je vous en ai déjà parlé, c'est Francis Bacon. Bon anniversaire, Stanislas. Vous avez deux grands Francis Bacon dans l'histoire. Vous avez aussi le peintre. Mais vous avez chez Bacon une œuvre qui est vraiment très intéressante, qui s'intitule « La Nouvelle Atlantide ». Où la science moderne, la technoscience moderne, qui devient science opérative, utile, rejoint l'utopie politique. Et où il s'agit de présenter une cité future où, vous voyez, grâce à la science, tous les hommes auront trouvé le confort, pourront se reposer. Alors, vous avez une ligne qui ressemble à ça, hein, dans la sixième partie du discours de la méthode de Descartes. Mais là, vous voyez, on est vraiment dans un projet dans une vision où c'est le savoir qui va commander à l'avenir de l'homme et le savoir technique. D'ailleurs, comme le dit Bacon, savoir, c'est pouvoir. Une grande phrase de Bacon, hein, qu'on retrouvera dans beaucoup de textes fondateurs, par exemple l'introduction à l'étude expérimentale de la ville de Claude Bernard, où il dira « L'homme peut plus qu'il ne sait ». Et c'est déjà ce renversement. Donc ici, savoir, c'est pouvoir. On sait pour agir, pour transformer la vie. Et si vous lisez la Nouvelle Atlantide, vous êtes stupéfait. Par exemple, justement, si on pense le rapport aux animaux, vous avez déjà une projection de toutes les manipulations qu'on pourra faire sur les espèces. La Nouvelle Atlantide, il dit, voilà, on pourra produire des nouvelles espèces à notre guise, nous pourrons, voyez, changer la forme des animaux, nous pourrons les recombiner, les recomposer, faire ce que vous voulez. Vous voyez, ça, c'est dans la Nouvelle Atlantide. Ce n'est pas chez Descartes. Je vous ai mis une citation que j'aime beaucoup de Bacon, qui marque bien la disparition de toute finalité, de toute téléologie dans les êtres vivants, et qui montre bien qu'on est dans, on entre dans une logique de l'efficience sans fin. Une efficience sans fin. Vous savez, chez Aristote, la cause efficiente, elle est toujours liée à une cause finale. Il y a un hylémorphisme chez Aristote, c'est-à-dire un rapport entre la matière et la forme. Vous voyez, hein, tout ce qu'on voit dans la physique, c'est toujours un composé de matière et de forme. Il n'y a pas de pure matière, il n'y a pas de pure forme. Bien de la même manière, il y a toujours un rapport entre l'efficience et la finalité. Parce que ce qui met en mouvement l'efficience, c'est la cause finale. Vous voyez ? Une chose agit parce qu'elle agit en rapport avec une fin. Tous les mouvements chez Aristote sont des mouvements orientés, déterminés par une fin. Toutes les actions sont déterminées par une finalité. Et pour une raison qui est simple pour lui, c'est que sinon l'action serait indéterminée. Elle agirait à casu, c'est-à-dire par hasard, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. On voit bien que même la notion, vous voyez, nous, c'est très intéressant, on peut le voir à partir du mot énergie. Vous savez que l'energeia, en grec, c'est ce qui a été traduit en latin par actus, par l'acte. Mais vous savez que nous, pour nous, l'énergie est devenue une pure potentialité. C'est étonnant, hein? L'énergie, chez Aristote, c'est l'acte, c'est-à-dire c'est une énergie qui est toujours liée à la forme elle-même. Il n'y a pas d'énergie indifférenciée. Il n'y a pas d'énergie dont on pourrait se servir dans un sens comme dans l'autre. Toute énergie est formelle et donc spécifique. Vous voyez, nous, on a un concept d'énergie qui est quelque chose qui est à disposition et dont on peut se servir dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, cette logique d'une pure efficience qui n'aurait pas de finalité propre. Bien, là, vous avez quelque chose de tout à fait analogue, hein. Il ne s'agit plus de regarder la finalité dans la nature. Il n'y a pas de pourquoi, au sens de but, hein, dans les formes vivantes, dans les formes naturelles. Et il faut abandonner la recherche des causes finales. Ça, c'est typique des sciences modernes. On abandonne entièrement la recherche des causes finales. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça n'est pas efficace. Ça ne permet pas d'inventer de nouvelles choses. Ça ne permet pas d'aller vers cette utopie d'un monde reconstitué par l'homme en vue de son propre projet. En fait, vous voyez, il faut comprendre une chose. Là, on ne peut jamais abandonner la finalité. On fait toujours les choses, même nous, surtout nous, en vue d'autres choses. Et ce qui se passe, c'est quand on méconnaît les finalités naturelles, on ramène toute la nature à nos propres finalités. l'abandon de la recherche des causes finales dans la nature, c'est aussi la subordination de toutes les choses naturelles à l'utilité humaine, donc à nous. C'est nous désormais la fin. C'est comme ça que le voit Bacon. Quand vous êtes dans une vision plus aristotélicienne, vous voyez que chaque espèce a une fin propre, qui est justement le maintien de sa propre espèce, hein, sa propre forme, comme singulière. Alors que, et alors bien sûr, ça c'est, elle a une finalité propre. Nous pouvons éventuellement l'amener à nous. Le mouton engendre des moutons pour qu'il y ait des moutons dans la nature et pour qu'il y ait une forme, et que cette forme, par exemple, soit une forme de, on pourrait dire, d'imitation, d'approche de la cause première. Voyez. Mais nous, nous pouvons intervenir et faire en sorte que le mouton serve à nous faire des vêtements. À... Mais ça n'est pas d'abord pour ça. Vous voyez, il y a une finalité propre des êtres vivants. Si vous dites que tout ça est là dans un mouvement d'autoconservation, mais il n'y a pas de but vraiment, vous pouvez ramener les choses à vous, et la seule finalité qui va rester dans la nature, ben, c'est l'utilité humaine. Vous savez qu'il y a un débat assez extraordinaire, je vous en parle dans la mesure où c'est en lien avec, avec l'évangile de ce dimanche. Je suis le bon pasteur, les brebis, etc. Et il y a un discours au début de la République de Platon entre Socrate et Trasimaque sur cette image du bon pasteur. Et donc on pourrait dire par exemple que un homme, on pourrait comparer un homme sage qui sait bien gouverner son peuple à un bon pasteur. Et Trasimaque lui dit, oui, bah, qu'est-ce qui fait le bon pasteur ? C'est pour que les brebis soient égorgées finalement par le boucher. Je suis un bon pasteur, je vous fais engraisser, je vous mène vers des jolis pâturages pour qu'on puisse vous égorger et que vous soyez bien dépecés, découpés pour faire un méchoui, quoi. Je vous conduirai vers le méchoui. C'est très intéressant parce que c'est assez subtil en fait, vous allez voir ce que je vais vous dire, parce que ce n'est pas tout de suite évident. Mais vous pourriez dire en gros que le travail du berger n'a pas de finalité propre, qu'il n'y a qu'une seule finalité, c'est... la fin ultime qui serait le boucher et même le fait de manger de la viande de mouton. D'accord ? Hein ? Ou de la vendre en plus, bien sûr. Manger et la vendre en plus, ça c'est, vous avez raison, de dire qu'il s'agit en plus de ce côté technico-commercial, voilà, de vendre quelque chose. Et ce que maintient Socrate, c'est qu'il dit, en gros, attention, non. Parce que la finalité du berger, c'est de prendre soin des brebis. Il y a une finalité propre qui n'est pas entièrement subordonnée à la consommation de viande. C'est-à-dire que, vous voyez, on est dans un monde où il y a des niveaux de finalité distincts et il n'est pas absolument vrai que tout se réduit à l'utilité pure de l'homme. De telle sorte qu'un berger, c'est très étonnant, les images du berger, vous voyez bien, il a un souci, il a une tendresse pour ses bêtes. Il n'est pas lui-même le boucher. Et donc, vous voyez, il y a une autre manière de penser la finalité. Quand vous arrivez à l'époque des grands abattoirs industriels, vous n'êtes plus du tout dans cette logique-là. Déjà, on produit du bétail, on surproduit du bétail, et déjà, la production du bétail est faite pour la chaîne d'abattage avec le produit finalisé, vous voyez, la boîte de cornes de bœuf. La boîte pyramidale, à l'époque, hein, de cornes de bœuf. C'est-à-dire, vous voyez, en plus, on n'a pas peur, par cette image, de se souvenir qu'on est avec un nouveau pharaon. Hein. Donc, boîte pyramidale du cornes de bœuf, qui apparaît dans les années... Vous savez, le cornes de bœuf apparaît parce qu'on produit tellement de viande grâce aux abattoirs de Chicago... qu'on perd de vue, enfin, on a ces problèmes de conservation parce que la possibilité de le transférer est problématique. Donc, on invente cette viande en conserve, vous voyez, salée, etc., pour pouvoir écouler les stocks. Donc, vous comprenez, est-ce qu'on est dans ce monde antique ? Mais déjà, dans le monde antique, vous voyez, se pose cette question, hein, où il y a une distinction des finalités, vous voyez, et où le berger... a une vraie tendresse pour le mouton et s'occupe du mouton et il n'est pas là en train de se dire « je fais de la viande ». Vous voyez ? Et le boucher intervient là-dessus, bien sûr, pour les nécessités humaines. Ou alors, est-ce que tout est ordonné à l'acte de la tuerie et de la consommation de viande ? Vous comprenez ? Vous avez un monde où il y a des finalités hiérarchisées peut-être, mais où... il y a des finalités quand même qui sont distinctes, vraiment distinctes. Et là, il n'y a plus qu'une seule finalité qui est l'utilité de l'homme. Et c'est ça la grande différence. Bien sûr que l'homme peut ramener des choses à son utilité, bien sûr qu'il doit le faire, mais est-ce qu'il y a aussi dans la nature des finalités propres ? Dans chaque être vivant, une finalité propre. Et récuser l'existence des causes finales, c'est finalement de reconnaître comme seule finalité de toute la nature uniquement l'utilité humaine. Oui ?
Je ne comprends pas parce que j'ai pas compris comment on est passé du savoir à l'utilité, parce qu'on a l'impression que la finalité, ce serait le savoir, mais pas forcément l'utilité. Comme si en fait le fait de savoir avait remplacé la fin, parce qu'avant on disait qu'il y avait une fin parce qu'on ne connaissait pas les causes, enfin, on ne connaissait pas le mécanisme.
Ah ben non, parce que le principe même, c'est que pour que le savoir soit à lui-même une fin, il faudrait que le savoir soit, se conduise d'une science à une sagesse, et donc qu'il passe toujours d'une physique à une métaphysique. Et donc qu'en contemplant la finalité des choses, je ne sois pas ramené à mon utilité, mais que je sois ramené à une cause première. Je sois ramené vers Dieu. Et c'est ça, toute la science antique, elle a plutôt cette dimension-là. Effectivement, il y a une finalité pour l'homme qui est d'abord de savoir, qui n'est pas d'utiliser, et ce savoir physique conduit à une sagesse, c'est-à-dire passe des causes secondes aux causes premières, et des causes premières au principe de toute chose. Alors que là, vous voyez, par le mécanisme, on sait, mais comme c'est définalisé, c'est exactement ça, qu'est-ce qui reste ? Mais on a une science qui ne peut plus passer... au stade de la sagesse, donc ce savoir ne peut plus avoir sa fin en lui-même. Pour qu'il ait sa fin en lui-même, il faut qu'il soit contemplatif. Mais quand il n'a plus sa fin en lui-même, quand il n'est plus sagesse, quand il ne renvoie pas la contemplation de la cause première, vous voyez, eh bien forcément, il se retourne vers une opération. Et donc, désormais, la seule finalité, c'est l'utilité humaine. Myriam, vous vouliez dire quelque chose à un moment, j'ai cru, oui. Non, c'était bien Socrate, oui. Je vous ai parlé de la République de Platon et du débat entre Socrate et Thrasymaque au début de la République de Platon. Et c'est là qu'il y a ce débat pour savoir est-ce qu'on peut prendre le pasteur comme modèle de gouvernement. Et Thrasymaque, cynique toujours, en disant que tout n'est que force, système de force, c'est le plus fort qui l'emporte, etc., avec déjà des théories du contrat... pour juguler la force, dit le pasteur, de toute façon, ça n'est qu'un simple instrument du boucher. Quoi. Donc, vous voyez, donc, qu'est-ce que c'est qu'un pasteur ? Il vise toujours son autoconservation, il ne cherche qu'à manipuler les bêtes pour les manger. Vous voyez, et c'est pas vrai. Et c'est ça ce que dit. Vous comprenez, parce qu'aujourd'hui, l'image du bon pasteur n'a aucun sens dans le monde moderne. N'a absolument aucun sens si vous l'entendez. Le problème, c'est qu'on n'est pas entièrement moderne, vous voyez, dans notre être. On a encore une imagerie, vous voyez, qui reste imagerie ancienne, mais dans le monde moderne, voilà, y a, qu'est-ce que c'est y a pas, y a des producteurs de viande. Voilà. Le bon pasteur, c'est celui qui produit le plus de cornets de bœuf. Ce n'est pas celui qui prend soin des brebis, c'est celui qui a la plus grosse productivité de viande et qui gagne le plus d'argent avec ça. Voilà le bon pasteur. Mais c'est déjà chez Trasimaque. Voyez. C'est celui qui fait les bons produits pasteurisés, en fait. Peut-être ça, voilà. Donc, là, vous voyez, la connaissance, l'idée que la nature obéit à des intentions, c'est un anthropomorphisme, peut-être, mais c'est un rapport à la nature en empathie. C'est-à-dire que je vais regarder les autres animaux en disant, ben, ils poursuivent aussi des finalités propres, vous voyez, comme nous. Et dès lors, on n'est pas dans une logique de où tout est finalisé par l'homme. Alors vous voyez, c'est ça qui est très intéressant, hein. C'est qu'en fait, le problème, ce qu'il faut opérer, il ne faut pas restaurer la téléologie comme le croient parfois certains de mes amis, c'est que la téléologie elle-même a posé un problème. On ne sort jamais du discours de la finalité, la question c'est quelle finalité ? Et comment est-ce qu'on entend la finalité ? Et vous voyez, il y a eu un moment où on a reconnu que dans la nature, il y avait des finalités propres aussi à chaque espèce, que même chaque métier avait une finalité propre et qu'il n'était pas entièrement subordonné à l'intérieur d'une chaîne de production, vous voyez, parce que ça aussi, c'est analogue dans la manière de penser. Et donc, on était là, puis à un moment, on a dit, non, non, mais toutes ces finalités sont ordonnées à l'homme. Donc, on reconnaît des finalités propres, mais ultimement, il y a l'homme qui couronne la nature. Et vous arrivez dans le système qui va être critiqué par les antifinalistes, qui est le système de Bernardin de Saint-Pierre. Vous savez, les melons ont des rayures pour qu'on puisse les manger en famille. Ils sont déjà avec des pointillés, vous voyez, prédécoupés, etc. Les pastèques, etc. Tout est pensé comme ça. C'est-à-dire, tout est pour l'homme. Regardez, les pommes ont la taille de la main. Regardez les choses. Et tout est finalisé pour l'homme. Donc, on reconnaît qu'il y a une sorte de finalité, mais tout est pour l'homme. Et à partir de là, on va dire, mais non, il n'y a même plus de finalité, il n'y a que des mécanismes, et nous n'avons plus qu'à les utiliser. Et on est dans une logique d'efficience sans fin, vous voyez ? Et c'est ça ce que va dire, c'est ça ce que va dire Bacon. Ce qui est efficace en technoscience, ça n'est pas de se préoccuper des finalités des choses, c'est de voir comment ça marche. Voyant comment ça marche, on récupère le truc, on peut le remanier, le subordonner à notre utilité. Donc on retrouve Descartes, sauf que là, il y a un tel abandon de la finalité que tout est ramené à une efficience vraiment sans fin. Et je vous ai mis cette phrase parce que, donc, qui s'appelle, d'un texte qui s'appelle De dignitate et augmentis scientiarum, je ne crois pas qu'il soit traduit en français, donc de la dignité et de l'accroissement des sciences. Voilà ce qu'il écrit. La recherche des causes finales dans les sciences de la nature est stérile et comme une vierge consacrée à Dieu, elle n'engendre rien. Vous remarquez comment, dans une même phrase, c'est une phrase d'un anglican, hein, il rejette la finalité dans la nature et il rejette la consécration virginale en même temps. C'est extraordinaire, hein ? Ouais, je trouve cette phrase magnifique. C'est-à-dire que ça n'engendre rien parce que ce n'est pas utile. Parce que, voilà, de la même façon, la Vierge consacrée n'est pas utile à la société. C'est pas... Il faut que ça disparaisse. Dans une société productiviste, pas de vierge consacrée, pas d'étude des causes finales de la nature. Et cette analogie entre une science qui recherche les causes finales et la virginité consacrée nous montre bien que la science qui recherche les causes finales est une science qui est contemplative et qui regarde la création dans son mystère. Comme la Sainte Vierge devait le faire, vous voyez, où elle accueille quelque chose. Elle n'est pas en train de manipuler les opérations d'engendrement. Elle tombe enceinte, la Vierge Marie, en comprenant encore moins que n'importe qui d'autre. Vous voyez, c'est pas la première insémination artificielle, comme certains ont voulu le croire. C'est précisément le contraire de tout cela, puisque c'est un procédé complètement mystérieux. Vous savez, dans une annonciation de Fra Angelico, la Vierge répond à l'ange, vous savez ce qu'elle répond à l'ange, hein, « Fiat mihi secundum verbum tuum », et le « secundum » passe derrière la colonne qui met l'ange et la Vierge un peu dans deux compartiments différents. Et donc le « secundum » est effacé. « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et vous voyez, le selon passe derrière la colonne, donc il y a ici fiat mihi, il y a ici secundum verbum tuum, mais et le secundum, il est caché. C'est-à-dire le selon, le comment de l'opération, vous voyez, reste absolument au-delà des capacités humaines, au-delà d'une saisie humaine, au-delà d'une possibilité de mainmise humaine. Et là, il s'agit vraiment de savoir tout du selon, du secundum, vous voyez. Et donc, de ne plus être comme cette Vierge, parce que là, on va être plutôt comme celle qui pourra produire des enfants à volonté. Ce qui n'a rien à voir. Voilà, je vous ai pris cette phrase. Et alors, enfin, je vous donne une dernière citation, une citation de la Critique de la raison pure. Il est certain que Kant est quelqu'un qui, dans la Critique du jugement, va retrouver la téléologie et va réaffirmer le fait qu'on ne peut pas étudier le vivant comme n'importe quel objet physico-mathématique. Je ne sais pas si ça vient de Kant, mais il y a une phrase où il dit « Il ne pourra pas y avoir de Newton du brin d'herbe ». Phrase très belle, en disant voilà, « Dès qu'on est face à un être vivant, il n'y a pas la possibilité d'une réduction totale à des phénomènes mécaniques ou physico-mathématiques. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère de la vie. » Et ce qui fait que je m'intéresse au vivant plutôt qu'à du non-vivant, c'est bien qu'il y a quelque chose qui distingue le vivant du non-vivant. Vous voyez, c'est... Et donc, il y a une critique chez Kant qui va se faire du réductionnisme mécaniciste. Ça, c'est certain. Mais dans la première partie de son œuvre, et notamment dans la Critique de la raison pure, il y a quand même cette affirmation à travers la critique totale de la métaphysique, hein, plus de métaphysique possible, en tout cas de métaphysique rationnelle, si on se tourne vers Dieu ou vers un premier principe, c'est à travers la morale et la foi, mais plus à travers la connaissance. Dès lors, la connaissance devient non plus contemplative, mais toujours un lieu de production. Et même, elle est constitutivement de l'ordre de la production. Vous avez vu un petit peu l'épistémologie ancienne, vous avez vu ça un peu, comment la théorie de la connaissance, un peu chez Kant ? Donc on ne connaît jamais les choses en soi, on ne connaît que des phénomènes, mais des phénomènes qui ont été déjà constitués par les catégories de notre entendement. D'accord ? Donc il y aurait des choses en soi qui restent mystérieuses, un monde de nous-mêmes, et puis nous on ne perçoit que des choses qui sont déjà, d'une certaine façon, fabriquées. La connaissance spéculative est elle-même, chez Kant, d'une certaine façon, une connaissance pratique, une connaissance fabriquée. Et on voit déjà, vous voyez, le fait que le savoir, au lieu de s'ouvrir vers une métaphysique et vers une sagesse, est complètement polarisé vers la pratique. Alors, chez Kant, c'est la pratique morale qui va être essentielle, mais on a déjà, vous voyez, cette obsession de tout est ramené à de la fabrication. Voilà ce passage, hein, qui est le passage, vous savez, sur ce qu'on appelle la révolution copernicienne du savoir chez Kant. C'est quoi cette révolution copernicienne ? Eh bien, nous croyons que c'est nous qui devions tourner autour de l'objet, eh bien non, en réalité, c'est nous qui faisons tourner l'objet autour de nous. C'est ça, là. Il dit, voilà, et c'est ça le vrai savoir. Lorsque Galilée fit rouler sur un plan incliné des boules dont il avait lui-même déterminé la pesanteur, ou que Torricelli fit porter à l'air un poids qu'il savait être égal à celui d'une colonne d'eau à lui connue, ou que plus tard Stahl transforma des métaux en chaux et celle-ci à son tour en métal, en y retranchant ou en y ajoutant certains éléments, alors une nouvelle lumière vint éclairer tous les physiciens. Ils comprirent, voilà la phrase importante, hein, ils comprirent que la raison n'aperçoit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans. Et une phrase comme ça, la raison n'aperçoit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans. Qu'elle doit prendre les devants avec les principes qui déterminent ses jugements suivant des lois constantes et forcer la nature à répondre à ses questions au lieu de se laisser conduire par elle comme à la lisière. La lisière, vous savez, c'est ce qu'on utilisait, ces sortes de laisses qu'on utilisait pour faire marcher les enfants, hein, pour leur apprendre à marcher. Alors là, vous ne pouvez pas faire, vous voyez, plus opposé à la vision grecque. Il s'agissait pour les Grecs de se laisser conduire par la nature, de reconnaître que la nature était en nous au stade le plus élevé, on pourrait dire, et que dès lors, nous avions à contempler la nature même pour nous connaître nous-mêmes. Le « connais-toi toi-même » est un « connaître la nature » chez les anciens parce que l'homme est celui qui est le plus, vous vous souvenez la phrase de maintenant vous la connaissez par cœur, hein, d'Aristote, l'homme est de tous les animaux celui qui est malista cataphusine, le plus ou par-dessus tout selon la nature. Donc connaître la nature et se connaître soi-même, il n'y avait pas d'opposition. Et on ne s'agissait pas de forcer la nature, parce que sinon ce serait se forcer soi-même. Il s'agissait vraiment de la contempler et de se laisser conduire par elle. Et là, vous avez cette idée, vous voyez, il s'agit de forcer la nature, de la mettre à la question. Vous avez une image qui est celle, parfois même, de la mise à la question comme un bourreau, vous voyez, un bourreau de l'Inquisition. C'est plus pareil. Nous ne contemplons pas, la connaissance n'est même pas vue sur un mode de réceptivité active, elle est d'abord, voyez, ce qui construit son objet. On construit notre objet et tout désormais est de l'ordre de la construction. Et il va y avoir de plus en plus une ignorance de la donation première des choses et tout va entrer dans une logique complètement constructiviste. Alors, je prends des auteurs qui sont des tournants, parce que vous trouverez toujours chez ces auteurs, peut-être moins chez Bacon que chez Kant, mais chez Kant, en tout cas, c'est très net, un correctif à ce discours-là. Vous voyez, parce qu'il y a toujours cette idée d'une donation originelle des choses. À tel point que même certains vont faire de Kant une lecture qui est de dire « Il y a une donation originelle qui est la chose en soi, mais nous ne pouvons pas la connaître. Donc, en fait, notre rapport au réel est toujours mystique. » C'est ce que fera, par exemple, Jacobi, qui a un post-kantien, qui dira, puisque la chose en soi, nous ne pouvons pas la connaître, puisque nous transformons tout à partir des catégories de notre entendement, eh bien, la chose en soi constitue un horizon mystique. Et alors, il y a une sorte, une réaffirmation, on trouvera dans tout le romantisme post-kantien, de la poésie, vous voyez, comme rapport mystique aux choses et comme permettant un plus grand rapport au réel que la science. Et donc il y a un renversement, et on voit déjà ça chez Kant, c'est-à-dire cette affirmation de ce que peut l'art, de ce que peut la morale, qui va beaucoup plus loin que la science, qui vont beaucoup plus loin que la science. Mais, vous voyez, il y a quand même cette idée que notre entendement construit son objet. Et dès lors, c'est le règne du constructivisme, du forçage de la nature, D'après nos plans. Donc, on est dans un renversement ici complet de la, du savoir comme partant de la nature, vous vous souvenez, c'est pour ça que l'art imite la nature, parce qu'on connaît à partir du sensible. Donc là, il s'agissait de contempler les choses sensibles, d'y voir leurs opérations et à partir de là, de déployer une technique qui se laisse conduire par la nature. Là, c'est l'inverse. C'est désormais la science qui commande et c'est la technique qui se sert de la nature uniquement comme un ensemble de matériaux et d'énergie disponibles. Alors bien sûr, hein, derrière ça, il ne faut pas croire que ce sont les philosophes qui font toute l'histoire. Hein. Il y aura l'intrusion de l'économie, du fait que tout ça est en plus profitable. Avec ça, on va pouvoir faire de l'argent. Et n'oublions jamais hein, qu'on est dans un dispositif qui n'est pas simplement idéologique, mais qu'il y a une infrastructure aussi à tout cela, qui est une infrastructure liée voyez, au profit et au mode de production. Donc on va parler dans la leçon suivante, bien sûr, vous avez compris, de mon cher Karl Marx, et notamment de sa pensée de la technique et de la machine, qui est une des pensées les plus profondes de l'histoire de la philosophie, et c'est celui surtout qui a pu voir vraiment le tournant qu'il y avait avec l'apparition de l'industrie, du monde industriel.